Le magazine de l'information et des musiques nouvelles de Radio PFM. Dans quelques instants, nous vous proposerons une interview d'Hélène Flaut, députée européenne Europe Écologie, de retour d'un nouveau voyage en Tunisie. Puis dans 30 minutes, nous recevrons Nathanaël, Franck et leur équipe du Son du Porte-Voix. Nous parlerons avec eux de la nouvelle édition de ce festival qui a lieu dans le cadre du 10e Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale le 1er mai à Arras. C'est le contenu de ce tumulte numéro 1069, Jean au micro, salut! Portiched en 1994, extrait de l'album Domi.
We'll be right back.
Magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9. Libre et sans pub. Je vous propose maintenant une interview d'Hélène Flautre, députée européenne Europe Écologie, de retour d'un nouveau voyage en Tunisie.
Hélène Flautre, vous êtes repartie en Tunisie le 15 au 18 avril. Vous aviez fait déjà précédemment plusieurs voyages avant la chute de Ben Ali, et à ce moment-là, c'était dans le cadre de soutien aux opposants à la dictature. Puis ensuite, vous avez fait au moins deux voyages. Alors, ce nouveau voyage en Tunisie, qu'est-ce qu'il vous a apporté de neuf? Qu'est-ce que vous y avez fait que vous n'aviez pas fait précédemment?
Je suis retournée en Tunisie pour aller rencontrer précisément les jeunes qui se sont soulevés dans le centre et dans le sud de la Tunisie. Et habituellement, c'est vrai que dans les délégations parlementaires ou plus ou moins officielles, les voyages s'arrêtent souvent à Tunis. Or, c'est clair que ce sont les régions les plus discriminées, les plus pauvres qui se sont soulevées, qui ont bougé. Et moi, je voulais absolument aller voir ce qui se passait là-bas et aussi essayer de comprendre ce qui s'était passé là-bas.
Alors justement, vous êtes allé dans le sud. Bon, ce sont des populations essentiellement rurales, ou est-ce qu'il y a aussi là une jeunesse diplômée, mais inoccupée parce que sans travail ?
Oui, ben c'est assez bien résumé. Quand on va là-bas, en fait, on se rend compte que ça ne pouvait que péter, en quelque sorte, parce que c'est des jeunes qui, d'abord, de nombreux jeunes qui sont diplômés, de nombreux jeunes diplômés qui sont au chômage. Et c'est des jeunes donc qui, depuis qu'ils sont nés, n'ont rien vu bouger dans leur ville. Il n'y a rien qui s'est passé, il n'y a pas de nouvelle perspective, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'université. Beaucoup nous ont parlé du manque d'université. Enfin, tous les services publics sont dégradés, ils ont le sentiment d'être les humiliés, les oubliés, les damnés de la Tunisie. Et comme ils sont en même temps, pour la plupart, formés, diplômés, en fait, c'est les chômeurs diplômés qui ont pris la tête du mouvement. Ils étaient dans une confrontation depuis longtemps avec la police, parce qu'en fait la police là-bas c'était le seul visage réel du régime, de l'État tunisien. Et par exemple les hôpitaux, les écoles, l'université qui n'est pas là, enfin tous les lieux publics qui auraient pu donner d'autres visages, ben, étaient pas là, étaient ou dans un état déplorable. J'ai visité l'hôpital de Sidi Bouzid par exemple. On a vraiment l'impression que la vie des gens, ça compte pas du tout, quoi. C'est totalement sale, complètement sous-équipé. Ils nous ont raconté qu'il y a quelques mois, ils avaient une délégation de médicale chinoise, dont une toubibe qui essayait de faire le mieux avec le peu qu'elle avait, nous disait que vraiment, elle voyait pas très bien ce qu'ils avaient comme qualité médicale, alors même que dans la ville, il y a des toubibs et des infirmiers qui sont au chômage. Voilà. Et donc, il y avait une stratégie, j'allais dire, j'ai compris en fait à Sidi Bouzid, qu'ils avaient élaboré depuis quelque temps une espèce de stratégie collective implicite. C'est-à-dire, il n'y avait pas de tract, ils ne se l'étaient pas raconté, quoi, mais ça marchait, où ils se donnaient... La tactique, c'était de empêcher la police de dormir, donc toujours avec des moyens pacifiques, mais le soir, ils se retrouvaient et ils ne laissaient pas la police dormir, par exemple. La police, c'était l'humiliation. Et d'ailleurs, dans les récits de l'immolation de Mohamed Bouazizi, c'est bien dit ça, que le matin de son immolation, il est arrêté par les flics, il lui demande pour une énième fois ses autorisations de vendre ses fruits et légumes, et pour une énième fois, met une amende, etc. Donc c'est l'humiliation subie, parce que c'est la police qui était là pour réprimer, qui a provoqué ce déferlement de demande de dignité. Donc là, dignité, 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 ils parlent tous de ça, de développement, de dignité, d'emploi, de citoyenneté, de démocratie, de liberté. Voilà, c'est des mots qui disent, quoi, en les réitérant. Et dans toutes les places, c'est-à-dire à Zarzis, les situations ne sont pas tout à fait les mêmes. La capacité aussi de faire des choses ensemble n'est pas tout à fait la même à Zarzis, les trois villes que j'ai vues un peu, Zarzis, Sidi Bouzid et Kasserine. Mais partout, il y a ces mots-clés, quoi, du soulèvement dit par des jeunes chômeurs diplômés. Voilà, donc ça, c'est quand même une constante que j'ai rencontrée, et avec une même manière de se situer par rapport à l'État tunisien.
Alors, on a très aisément parlé de révolution en Tunisie. Alors, bon, la chute des dictateurs, c'est une chose, mais en fait, le processus continue. Et on en est où, en fait ?
Bah, ils ont quand même réussi quelque chose d'extraordinaire, moi, je trouve. Hein. Quand j'étais allée juste après la révolution, là, j'entendais les ambassadeurs, la Commission européenne, et y compris des gens au gouvernement, ce gouvernement de transition numéro 1 qui finalement est tombé. Il y avait des ministres qui parlaient avec beaucoup de sérieux de « Oh oui, bon, d'ici 6 mois, hein, mais pour les présidentielles ». Et en fait, ils ont réussi à inverser complètement l'agenda électoral et politique, parce qu'évidemment, si ça commence pas par les présidentielles et que ça commence par une assemblée constituante, c'est déjà une preuve d'une consistance et d'une détermination extraordinaire. Parce que normalement, enfin, si ça n'était que superficiel, et que maintenant le terrain de jeu c'était entre ceux qui pouvaient prétendre, en instrumentalisant au mieux les soulèvements, devenir ceci ou cela, ben ils ont perdu cela. Donc ça c'est quand même, je trouve, très intéressant. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de contradictions, que l'affaire est dans le sac et que tout va marcher. Non, 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 tout reste extrêmement compliqué, y compris d'ailleurs au sein de ce nouveau gouvernement de transition, où les postes des ministères clés comme l'intérieur et la justice restent quand même dans des administrations, des cabinets et des mains assez peu favorables à des transformations démocratiques radicales, mais aussi avec des ministres comme le ministre du développement régional qui essaye de faire des trucs plutôt chouettes, de mettre en place des conseils régionaux de développement, d'intégrer les acteurs de la société civile, y compris, et il le cite, l'Union des jeunes chômeurs diplômés. Donc c'est quand même des choses intéressantes dans une bouche de ministre. Et en même temps, il est en confrontation avec le ministère de l'Intérieur qui veut maintenir la verticalité du pouvoir de l'État à travers la toute-puissance des gouverneurs. Tous les gens que j'ai vus, là, dans le centre, dans le sud, haïssent les gouverneurs. Alors maintenant, il y a de nouveaux gouverneurs, mais ils ont les mêmes équipes, si ce n'est le même cabinet, les mêmes administrations. Donc les interlocuteurs sont toujours les mêmes. La situation, elle est compliquée, hein, parce que, voilà, pour les gens qui se sont battus, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de changé. Sauf si vous êtes à Tunis, j'allais dire, dans l'ébullition des débats. De la commission politique et des réformes qui comprend maintenant plus de 150 membres, qui est dirigée donc par ce monsieur Benachour dont on avait déjà parlé, et qui fait un travail, donc qui a élaboré 2 décrets-loi pour justement pouvoir organiser les élections qui devraient avoir lieu le 24 juillet. Mais chacun s'accorde à reconnaître que ça va être compliqué à tenir les délais, parce qu'il faut refaire les listes électorales, il faut former des observateurs de la société civile, il faut tout remettre à neuf, quoi. Tout le monde pensait pouvoir utiliser en élaguant les vieilles listes électorales, mais tout le monde se rend compte que tout était totalement bidonné.
Alors est-ce que vous avez senti une mobilisation constante de la population ? Est-ce que les formes d'organisation que vous aviez notées, nouvelles, d'auto-organisation, est-ce que ces formes-là continuent à exister ? Est-ce qu'elles se sont renforcées ?
Oui, moi j'ai vu plusieurs chemins. Quand je suis arrivée, il y avait à Zarzis et à Kasserine le comité pour la révolution, qui avaient lancé des grèves et des sittings. Donc voilà 2 villes, par exemple, où la mobilisation continue sous des formes de revendicatives très affirmées, comme le sitting, en s'adressant au gouvernement, parce que les aides ne viennent pas, les ministres n'ont pas visité. À Sidi Bouzid, avant que j'y arrive, n'était encore passé aucun ministre du gouvernement tunisien, et encore moins aucun responsable européen. Je suis la première politique non du coin, j'allais dire, à être passé. Donc, non, ça donne une idée quand même du fait que ces jeunes qui se sont bougés pour dire non au mépris dans lequel ils étaient tenus n'ont pas encore de preuves concrètes qu'ils sont aujourd'hui reconnus comme importants et décisifs pour penser l'avenir de la Tunisie.
Oui, donc on sent bien que ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Le processus pourrait s'inverser. Alors peut-être pas restauration de la dictature, mais un enlisement. Est-ce que ce risque-là existe ?
Mais moi, je trouve quand même qu'il y a une consistance, quoi. C'est pas un feu de paille, quoi, cette mobilisation. Hein. Donc, moi, j'ai vu, par exemple, à Sidi Bouzid, j'étais extrêmement impressionnée parce que j'ai été reçue dans un local. Là, il y a un local qui est un centre culturel et de développement. Et il y avait autour de la table 45 personnes, à peu près. Des fonctionnaires, des jeunes chômeurs diplômés, des profs, des plus ou moins jeunes, des femmes, des gens de l'association Araga, donc Dignité. Et ils m'ont exposé le fruit de leurs travaux communs pour penser le développement de Sidi Bouzid. Mais j'étais complètement bluffée, impressionnée. Des programmes d'agriculture bio, de centres culturels, de télévision... SBZ Radio, Sidi Bouzid Radio, d'universités, de rénovation des logements, enfin voilà, un ensemble de développement éco-touriste, s'ils ont des sites qui n'ont jamais été valorisés, des sites romains, mais considérables. Ils souhaiteraient valoriser, il y a des sources d'eau chaude, enfin, il y a plein d'idées pour faire des... Ils demandent, par exemple, de manière très concrète et comme acte aussi immédiat, que les vastes propriétés foncières de l'État soient redonnées aux personnes qui ont des projets de développement agricole. Et ils veulent se lancer dans l'agriculture biologique. Et moi, j'arrive là, j'en crois pas mes oreilles, quoi. Non, vraiment très, très impressionnant. Alors après, dans d'autres villes comme à Kasserine, on sent que, que le travail collectif est beaucoup plus faible, même s'il y a aussi beaucoup d'idées.
Justement, est-ce qu'on sent une effervescence culturelle ? Est-ce qu'il y a des nouveaux journaux qui sont apparus, de nouvelles organisations, des partis, Bon, vous avez cité une radio, un projet de radio.
Ouais.
Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui bougent ?
Il y a une télé aussi à Zarzis qui est absolument remarquable, que vous pouvez aller chercher sur Internet. C'est Zarzis TV. Ils ont notamment fait un documentaire qui s'appelle Liberty 302 sur le bateau militaire par lequel la noyade des jeunes a pu se faire au large de la côte de Zarzis. Donc ils ont enquêté sur ce « entre guillemets accident ». Et ils ont été voir les parents, les amis des jeunes qui sont revenus donc, à Zarzis et qui ont raconté comment les jeunes n'avaient pas été sauvés par le bateau militaire, par exemple. Bon, donc, ils font des documentaires, ils estiment aujourd'hui que c'est incroyable comment ils... Enfin, c'est des jeunes gars qui ont démarré leur documentaire en plein mouvement... Et puis qui maintenant considèrent qu'ils ont une responsabilité, que cette responsabilité est difficile à assumer parce que tous les habitants viennent les voir pour témoigner ou pour dire leur opinion. Et ils prennent ce travail avec beaucoup de cœur, mais aussi beaucoup de sens des responsabilités. Ils sont presque encombrés de ce qui leur arrive dessus, quoi. Et donc, il y a une effervescence, il y a une demande de culture qui est évidente. À Zarzis, par exemple, les jeunes chômeurs diplômés veulent ouvrir un centre culturel à Méditerranée. Ils ont un festival de cinéma qui a lieu fin mars. Ça n'était pas la première édition cette année et ils souhaiteraient pouvoir le développer. Il est certain que ça vaudrait certainement le coup que des gens comme ça viennent, par exemple, ici à Arras, pendant le festival, prennent des contacts, regardent comment les choses marchent, pour voir s'il y a des partenariats possibles à faire, tout simplement, parce que je crois que ça peut être extrêmement passionnant d'accompagner un projet comme celui-là. Alors, il y a effectivement pléthore de formations politiques. Là. Je crois qu'il y a plus de 59. Enfin, moi, quand j'ai quitté, c'était 59. C'est peut-être 65 aujourd'hui. Quoi. Donc, c'est complètement fou. Donc, il va y avoir, j'ai eu, bien sûr, un écrémage en fonction de qui pourra présenter une liste ou pas de liste, etc. Mais il y a beaucoup de formations politiques. Il y en a beaucoup qui ont été refusées comme étant non conformes au caractère séculier de l'État tunisien, par exemple. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr, de Ennahda, qui est le principal parti islamique, qui, lui, bien sûr, est autorisé. Il y a beaucoup de demandes d'autorisation pour l'ouverture de radio, mais il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de cadre légal, et il n'y a pas d'attribution de fréquence en conséquence. Et ça pose des problèmes parce que il y a des radios militantes clandestines qui émettent depuis très longtemps, comme Radio Kalima, qui auraient dû voir tout de suite comme compensation des préjudices subis pendant des années. Les journalistes étaient poursuivis par la police, etc. Donc elle aurait dû être reconnue immédiatement. Et en fait, ça montre les contradictions. Aujourd'hui, une espèce de comité Théodule supérieur qui doit donner un avis sur les projets de radio qui sont présentés considère que Kalima doit être traité avec les autres, donc il est très urgent d'attendre. Et voilà, donc il y a aussi des situations qui sont désagréables, c'est celle dans laquelle se trouve aujourd'hui Siem Benzedrine, qui par ailleurs fait un travail remarquable. Elle a construit une plateforme citoyenne avec beaucoup d'interlocuteurs, société civile. Donc beaucoup de partis, beaucoup de demandes d'autorisation, mais pas de cadre légal pour la radio, et ça c'est quand même, et ni la presse d'ailleurs. Et c'est embêtant parce que pour tenir des élections le 24 juillet, il faudrait quand même pouvoir faire une campagne avec une presse à peu près libre et indépendante quand même, et donc ça ajoute un peu aux difficultés du moment. Sinon le choix qui a été fait quand même de faire des listes à la proportionnelle dans les différentes régions, dans les 24 régions de la Tunisie, avec des listes entièrement paritaires, c'est déjà, je trouve, un signe extrêmement intéressant. Donc moi, j'ai vu aussi beaucoup de gens qui se demandent s'ils vont se constituer dans le champ politique pour être partie prenante de cette assemblée constituante, ou s'ils vont débattre, enfin, être les moteurs du mouvement populaire qui... continue à garantir que les objectifs ne sont pas détournés. Enfin, voilà, donc ce genre de questions est sur la table, donc ça débat. Hein. Les stratégies ne sont pas évidentes, mais c'est un moment quand même très intéressant. Oui.
Vous avez senti une population toujours enthousiaste, ou est-ce que les gens ont plutôt une attitude sceptique ou désabusée, ou je sais pas. Enfin, par exemple, est-ce que les jeunes sont encore attirés à partir de Tunisie?
Il y a une capacité de mobilisation constante qui s'est exercée donc il y a moins de 10 jours à travers ces sittings, et plusieurs personnes m'ont dit mais nous si ça n'avance pas on refait notre marche sur Tunis. Ils sont prêts à faire Casbah 3. Donc ça c'est très très clair. Donc je crois que la détermination est forte. Par contre je trouve que l'enthousiasme manque. C'est-à-dire que là on voit que ce qui est difficile en quelque sorte. Et on voit que les choses avancent au moins vite qu'on espérait. On voit que les rapports de force politique jouent, y compris entre les gens qui sont serrés les coudes pour gagner le changement de régime. Et donc, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une détermination forte à avancer, mais pas pour copier les démocraties européennes, hein. Pour aller vraiment de l'avant, c'est-à-dire qu'il y a une ambition, bon ça pourrait être prétentieux si c'était eux qui le disaient, mais moi je peux le dire, un peu d'être, d'éclairer le monde quoi. Ils ont envie d'inventer une nouvelle forme démocratique, ça me paraît clair, mais il y a aussi évidemment de fortes résistances. Alors, il y a aussi des inquiétudes. Donc, ce manque d'enthousiasme est certainement dû à quelques angoisses. D'abord, il y a des groupuscules pseudo-islamistes radicaux qui vont terroriser. Bon, tout le monde pense que c'est manipulé par ce qui reste de la police politique ou de la garde présidentielle de Ben Ali, etc. Mais il y a des gens qui se baladent dans les bus, et on me l'a raconté à plusieurs reprises, et qui disent « Toi, tu mets le voile, tu ne dois pas te promener comme ça, etc. Rentre chez toi. » Qui vont voir des familles en disant « Mais qu'est-ce qu'elle fait ta femme? Elle n'est pas à la maison. Tiens, voilà, je te donne son salaire et ta femme reste à la maison. » Et donc, il y a des petits groupes comme ça qui... Alors, il peut y avoir du travail politique militant des NADA ou de groupes plus radicaux que NADA. Il y a aussi de la manipulation. Tout le monde est à peu près d'accord. Mais ça crée quand même un climat, c'est le but de l'opération d'ailleurs, un climat assez instable et un peu angoissant qui pourrait laisser penser que « Ah bah oui, Ben Ali, c'était pas le meilleur rempart contre l'islamisme, en fin de compte. » Enfin bon, vous voyez, il y a ça qui traîne. Puis il y a que maintenant, les choses sont compliquées à accoucher. Voilà, et donc il y a l'attente que les choses avancent vraiment. Il n'y a pas de discours non plus, parce que c'est ça l'ambiguïté, il n'y a pas de discours politique qui soit un peu référent, ou des discours politiques qui soit un peu référent et qui donne un peu de, comment dire, de perspective à ce qui est en train de se passer. Parce que le gouvernement de transition, ben, les gens sont en position faible, ils sont dans un gouvernement de transition, donc ils ne jouent pas aux leaders politiques, ils ne passent pas à la télé pour faire des grands discours. Hein. Et puis le champ politique, ben, il est en train de se constituer, comme je l'ai dit. Et voilà, donc c'est un moment où il y a de la confusion quand même. Confusion et détermination.
Alors au cours de ce voyage, vous avez approché la frontière entre la Tunisie et la Libye, et on sait que par ces postes frontières sont passés des dizaines et des dizaines de milliers de gens qui ont fui la Libye et qui se sont tournés vers la Tunisie.
Oui, donc à ce poste frontière que j'ai visité avec le personnel du Haut Commissariat aux réfugiés, j'ai rencontré la police tunisienne, etc. Et il continue d'ailleurs de passer beaucoup de personnes, hein, de toute nationalité, mais enfin beaucoup d'Égyptiens, beaucoup de Libyens, les Tunisiens qui reviennent, qui travaillaient en Libye, et des Érythréens, des Somaliens, il y a plus de 20 nationalités qui sont passées. Et c'est vrai que, enfin, tous les responsables que j'ai vus là, qui ont l'habitude un peu de rouler leur bosse dans les pays, les points chauds de la planète, m'ont tous dit qu'ils n'avaient jamais vu une telle générosité, une telle coopération avec les autorités, que ce soit d'ailleurs au niveau de l'armée, au niveau de la police. Par exemple, les personnes qui fuient la Libye et qui n'ont pas de papier ou qui fuient sans leurs papiers, eh bien, ils les régularisent tout de suite. C'est-à-dire que toute personne fuyant est accueillie et son séjour est régularisé. De toute la Tunisie, des convois de vivres sont arrivés sur place à la frontière. Les gens ouvrent leurs maisons. Il y a plein de maisons d'accueil des migrants. Il y a des hôtels qui ne font pas payer leurs prestations et qui sont ouverts pour les migrants. Enfin, c'est une fraternité, une générosité, une présence, une disponibilité incroyable, incroyable.
Ça devrait peut-être inspirer les gouvernements français et italiens qui ont l'air d'avoir à affronter une montagne invasive de Tunisiens vers l'Europe.
Oui, c'est clair que ça devrait à minima les tenir en respect et leur éviter de dire ce qu'on entend depuis 2 mois maintenant, même plus de 2 mois, à propos de ces 20 000, 22 000 Tunisiens qui sont arrivés sur l'île de Lampedusa. C'est vraiment absolument indécent, c'est totalement scandaleux. Et d'ailleurs, en Tunisie, personne n'en a rien à battre. Tout le monde voit bien que ce sont des gesticulations médiatiques et personne ne discute de cette question-là. Moi, je pensais trouver des gens, mais vraiment extrêmement mécontents de cette pression qui est mise sur la Tunisie pour rapatrier ces Tunisiens, etc. Mais même pas, quoi. Ça les indiffère, ils ont d'autres choses à faire, ils sont centrés sur d'autres priorités et ça n'est même pas discuté. Maintenant, il va quand même y avoir une rencontre franco-italienne ce mardi. Et donc, ce qui serait souhaitable lors de cette rencontre, c'est que, un, ils décident de faire un moratoire sur toutes les expulsions de Tunisiens, et de donner des titres de séjour temporaires pour les 20 000 qui sont déjà arrivés, de façon à ce qu'ils puissent bosser s'ils veulent, aller visiter leur famille, leurs amis, respirer et souffler un peu après 23 ans de dictature. Enfin, c'est vraiment le minimum de la solidarité que les États européens devraient montrer à l'endroit de la Tunisie.
Hélène Flautre, députée européenne Europe Écologie, donc au micro de Radio PFM, après son retour d'un nouveau voyage en Tunisie. Magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. Dans quelques instants, nous recevons Nathanaël, Franck, Thanatos et Fred de l'équipe du son du porte-voix. We'll be right back. Voilà une musique adéquate pour l'arrivée tumultueuse de l'équipe du son du porte-voix. Il y a là Nathanaël, salut Nat.
Salut Jean.
Fred, salut.
Salut Jean.
Thanatos.
Pareil.
Super. Et puis Franck.
Salut.
Voilà, l'équipe du son du porte-voix, eh ben, ça devient une tradition. C'est la quatrième édition et le quatrième passage, je pense, sur PFM.
Ouais, ouais. Pour annoncer,
dans Tumulte. Pour annoncer donc ce festival qui a lieu dans le cadre du 10e salon du livre d'expression populaire et de critique sociale à Arras, donc le 1er mai. On va parler évidemment de votre programmation lors de ce festival, mais avant, l'esprit de ce festival. Nat, pour commencer.
L'esprit du festival, on a essayé de garder. Donc là, c'est la quatrième année qu'on a mis le festival en place. Et c'est permettre de faire découvrir des groupes alternatifs ou underground, comme on dit, de manière avec ce qui nous est offert par le Salon du Livre, c'est-à-dire une scène en plein air, gratuit. Et nous, en fait, on est avant tout des spectateurs, donc on s'y vient de différents festivals ou cafés-concerts, où on repère des groupes et où on les fait venir le 1er mai.
Alors, est-ce que l'équipe du son du porte-voix a changé ou est-ce que, je reconnais évidemment les trois piliers qui étaient là déjà l'an passé à la radio, Thanatos, Franck et Nat.
Il y a Fred. Pilier, hein.
Il y a Fred en plus. Fred, toi, tu es un ancien de l'équipe ou c'est ta première année sur le festival?
En fait, non, c'est pas ma première année. Ça fait 4 ans. Les deux premières années, j'ai joué au sein du groupe Tête de Mule. Donc j'ai participé, bénévolement au son du porte-voix. Donc cette année, je ne joue pas. On donne un coup de main aux copains. Donc on va servir des bières. On va monter des tables. On va monter la sono, tout ça. Donc on va donner un petit coup de main.
Voilà. Alors est-ce que le son du porte-voix, c'est d'abord ça? C'est une équipe de gens qui ont à peu près le même positionnement dans la musique et dans la société et qui sont copains et qui ont envie de faire un truc qui est plutôt bien.
Ah merci, ouais, c'est vrai, c'est plutôt pas mal quand même.
Est-ce que ça fonctionne comme ça aussi sur le fait que vous entendez bien entre vous, que vous avez des
avant
goûts.
Tout, c'est une bande de potes aussi, hein,
voilà, c'est ça.
Avec qui on partage souvent des festivals ou des choses comme ça, donc... Nous, quand on a lancé l'idée il y a quelques années de ça, on leur a demandé, ils nous ont dit pas de problème, ils nous ont suivi tout de suite, quoi. Et musicalement, après, les goûts de chacun, ils sont bien différents, mais on s'y retrouve tous pendant le Salon du Livre.
D'accord. Nat ?
Oui, non, mais je pense aussi que c'est ça, quoi. C'est qu'en fait, Arras, c'est pas une ville très grande. Dès qu'on se retrouve dans différents concerts ou différents lieux, c'est ça aussi qui a créé beaucoup de personnes qui font partie de... L'équipe de bénévoles, on va dire, c'est des gens qui se rencontrent principalement en concert. Et comme, on va pas faire un discours de lamentation, mais comme il y a très peu d'événements où on peut se retrouver pour des concerts sur Arras, là forcément, des gens qui sont devenus copains adhèrent à ce projet-là. Quoi.
Ouais. Et musicalement, vous la qualifiez comment, la musique que vous programmez?
C'est surtout sur des coups de cœur qu'on a en festival. Après, c'est vrai que ça reste...
C'est rock alternatif, on va dire ça, comme ça ou...
Rock alternatif, c'est facile comme terme, parce que ça permet d'englober plein de trucs. Quoi. C'est vrai qu'après, ça reste la scène alternative. Donc, tout ce qui est punk, ska, rock. On devait avoir un peu de surf music aussi cette année. Enfin, voilà quoi. Mm-hmm. Et des groupes qui, au-delà de la musique, il y a aussi une démarche derrière.
Un engagement, ouais.
D'accord. Et le par exemple, le nom du festival et de votre équipe, en fait, le son du porte-voix, ça c'est venu comment? Vous l'avez trouvé comment?
Un soir,
Nat.
On avait bu quelques bières. Et...
Après un apéro bien chargé.
Non, mais il fallait qu'on trouve un nom pour le festival, pour que ce soit inclus dans le Salon du Livre, mais que c'est un nom quand même... parce qu'on a quand même tout un espace dans les jardins du Palais Saint-Vaud, donc vraiment un espace défini. Donc, qu'il y a un événement dans l'événement qui est le Salon du Livre, il fallait trouver un nom et on trouvait que ça avait cette idée de revendicatif.
Ouais, revendiqué, ouais. Au travers le son du porte-voix, dans les manifs, des choses comme ça. Ouais. Donc, ça avait sa place. On avait trouvé que ça avait sa place pour que ça s'appelle comme ça, quoi.
D'accord.
Bah, c'est un beau nom, hein.
Ouais. Alors, on va pas faire que parler, on va écouter des extraits de CD, des groupes qui vont passer. On a déjà écouté un premier morceau. Qui est-ce qui le présente, ce qui a ouvert votre arrivée?
C'est le nom du groupe Burning Lady. Alors le titre exact, je l'ai pas, mais en fait cette année, on en parlera peut-être plus amplement tout à l'heure, on avait des petits soucis financiers, et en fait c'est le premier groupe qui a répondu tout de suite présent quand on leur a dit que nous, cette année, on n'avait pas d'argent à leur donner, quoi.
D'accord. Bon, on en parlera après, l'aspect financier. On va tout de suite écouter le second morceau, alors votre choix.
Bah, le deuxième morceau du disque. Ça me paraît très bien.
Du disque, c'est le titre numéro 9 que vous m'avez.
Tout à fait.
D'accord.
Donc là, on va écouter, c'est les C'est pas grave.
Le son du porte-voix sur Radio PFM dans l'émission Tumulte. Alors, qu'est-ce qui nous rappelle le titre du morceau qu'on vient d'entendre et le nom du groupe ?
Là, c'était C'est pas grave avec le morceau Cacahuète. C'est pas grave, c'est un groupe local, rageois.
Alors, puisque la question a été abordée de manière allusive, mais elle est importante, c'est la question financière. Effectivement, pour faire ce festival, les trois précédentes éditions, vous aviez les financements nécessaires pour payer les groupes, organiser, avoir une sono, etc. Et ce financement était apporté par l'association Colère du Présent,
ouais.
qui tenait elle-même ses financements de subventions. Il y a un problème cette année, alors.
Ouais. Bah, c'est l'effet entonnoir, quoi. Nous, on est en bout de chaîne, quoi. Et c'est vrai que cette année, c'est très difficile, que ce soit pour Colère du Présent ou pour plein d'autres associations qui vivent par les subventions. Hein. C'est pas un problème propre à Arras, de toute façon, c'est partout pareil.
C'est plutôt national, même. Hein.
Ouais. Et donc, cette année, malgré la volonté de Colère du Présent et Didier Andro, qui ça fait 4 ans qu'il nous finance sans rechigner, quoi, et sans qu'on lui rende de compte, là, il nous a expliqué que cette année, ça allait être très compliqué. Ça, il nous l'a dit il y a 3 semaines. Parce que lui, il a appris aussi que les subventions réduisaient de jour en jour. Et
certains sponsors aussi qui ne répondent plus présents comme les autres années, quoi. Il y a eu aussi des sponsors qui se sont éjectés, qui sont sortis du salon, quoi.
Mmh. Des sponsors, c'est-à-dire, ça veut dire quoi?
Je sais qu'à un moment, il y avait le Crédit Agricole. Alors, je ne sais pas s'ils en font encore partie. Enfin, des sponsors un petit peu plus entreprises commerciales qui finançaient un petit peu le projet, quoi.
Et nous, à la limite, c'est la première année où on se retrouve confronté à ça, parce que c'est vrai que ça fait depuis le début où, en fait, c'est Colère du Présent qui nous donne de l'argent. Nous, tout ce qui est histoire de subvention et tout, on n'a jamais eu à gérer tout ça, quoi. Mmh. Et cette année, on s'est retrouvé confronté à ça. Et
bah, du coup, en fait, on... Didier nous a annoncé il y a à peu près un mois, ouais, qu'il ne pouvait pas nous financer comme habituellement, donc, c'est-à-dire même rien du tout. Donc, en fait, on s'est posé la question de poursuivre ou pas le festival. On a envoyé un mail au groupe. Et il y a des groupes qui ont joué le jeu et qui ont répondu présent tout de suite.
Oui, parce que votre programmation, elle était déjà prête, en fait.
Ouais. Il y a eu D'accord. quelques modifications, là.
D'accord. Mais donc, vous avez recontacté les groupes que vous aviez déjà programmés, que vous aviez invités, qui avaient donné leur accord. Et vous leur avez dit, cette année, on n'a pas de sous, c'est ça ?
Bah, ouais, en fait, c'était même encore plus... On a envoyé un mail en disant, on est désolé, dans trois semaines, il y a le festival qui se passe, on n'a pas d'argent, donc on voulait vous prévenir qu'on reportait à plus tard votre venue. Mmh. Parce qu'on ne voulait pas faire non plus le plan d'annoncer de l'argent à des groupes, puis de leur faire le plan au dernier moment, on n'a plus de sous, est-ce que vous voulez venir gratos ? Donc, dans le message, c'était vraiment, on annule votre venue pour le 1er mai, on essaiera de vous faire revenir quand les temps seront plus cléments. Et sur les quatre groupes, il y en a deux qui ont dit dans les 24 heures, nous, on sait ce que c'est, on vit la même situation. Nous, c'est l'occasion d'avoir une tribune libre aussi pour faire une espèce de doigt d'honneur à toute la situation actuelle, quoi.
D'accord. Donc, les groupes que vous avez programmés, d'une certaine manière, ils sont dans la même philosophie que l'équipe du son du porte-voix.
Ouais, voilà.
Voilà, donc ça a répondu présent.
On s'y retrouve bien. Ouais.
Donc cette année, du coup, il y a une quatrième édition du son du porte-voix. Vous avez pensé à un moment donné que ça allait pas marcher, quoi ?
Ouais.
Ah, quand même, ouais.
Ils ont bien flippé. Hein.
Ouais. Une petite rumeur sur Internet.
Toi, Thanatos, t'étais sûr du coup ou pas ?
Ouais, moi, je suis que chef des bénévoles, donc je m'en tape un peu, quoi.
Ah, d'accord. Parce que, attends, alors, Thanatos, approche-toi du micro, là.
Ouais.
Tu dis que tu es chef des bénévoles. Donc, si je comprends bien, premièrement, il y a un chef.
Ouais.
Deuxièmement, il y a des bénévoles. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas bénévoles, qui sont rétribués dans l'équipe du son du porte-voix.
Les bénévoles ont droit, cette année, à 3 bières par personne, au grand maximum. Je vous l'annonce, hein, fièrement.
D'accord. Bon, alors, et les gens qui ne sont pas bénévoles, c'est qui ?
C'est le public.
Donc, en fait, t'es le chef de l'équipe du son du porte-voix.
Ouais, chef autoproclamé, quand même.
Ah ouais, autoproclamé, ouais. Et pas reconnu, en fait, par
tous
les...
J'étais reconnu cette année, quand même.
D'accord. Personne n'a eu le choix.
Voilà. Donc, Thanatos, en fait, t'es le personnage un peu fétiche de l'équipe, non ?
Ouais, il m'aime bien quand même.
C'est notre gourou.
Ouais, mais bon, avec les deux individus, quoi, les chefs, quoi. On peut parler de Franck et Nathanaël. Bon, d'un côté, on a quand même, un esprit capillaire, quoi, important. Mais de l'autre, un problème de capillarité. Donc ils D'accord. sont très complémentaires.
D'accord, on t'a bien suivi, hein, Thanatos, il n'y a pas de problème. Ouais, donc pendant un moment vous avez pensé que ça se ferait pas. Est-ce que, Fred, je vais te demander à toi, est-ce que par contre dans l'équipe il y a l'enthousiasme était toujours là quand même?
Si, je pense que c'est vrai qu'on en a parlé, qu'on a failli pas faire le festival et puis on était un peu dégoûté.
Découragé.
Non, je pense pas découragé. On était là pour soutenir les copains. On a même notre camarade chanteur de Tête de Mule, Kékette, qui nous a trouvé Château Brutal à la dernière minute.
Un groupe de Lille, ouais.
Un groupe de Lille. Donc. Je pense que même des gens qui ne sont pas bénévoles au festival, qui sont aussi spectateurs, sont aussi motivés que nous pour maintenir ce 1er mai le son du porte-voix à Arras, quoi.
D'accord. On écoute un autre morceau de musique. Qui est-ce qui le présente ?
Donc, non, c'est Château Brutal, c'est ça ? Ouais. Château Brutal. Ouais.
Vas-y, Fred.
Je parle, c'est ça ?
Nous dis ce que c'est, quoi.
Ben, Château Brutal, en deux mots. Château. Et brutal. Moi, j'aurais pensé plutôt à rock fort, brutal, agressif. À mon avis, il ne faut pas être trop cardiaque pour supporter ce concert. Bon, c'est des bons icos. Ça envoie. Je pense que tu vas mettre la musique en... Voilà.
Son du porte-voix, le 1er mai à Arras, on a dans notre studio l'équipe, une partie de l'équipe du son du porte-voix, Nat, Fred, Thanatos et Franck. Alors peut-être on va reprendre un petit peu la programmation, les différents horaires des groupes. Donc le festival, bon, le salon du 1er mai, c'est de 10h à... Je ne sais pas quelle heure d'ailleurs.
Ouais, 21h, un truc comme ça.
21h, ouais. Et vous, votre programmation dans les jardins?
Bah, nous, on met en route à 13h.
13h.
À partir de 13h, ça met en route. Et après, les groupes s'enchaînent jusqu'à 18h, 18h30. Sachant que cette année, l'autre particularité aussi, c'est que le concert de clôture du Salon du Livre se fera sur notre scène, en fait, dans les jardins du Palais Sava.
D'accord. Et vous avez fixé des horaires précis pour chaque groupe
ou... Ouais, ouais.
Ouais.
Donc,
ouais, peut-être les indiquer.
Ouais, donc on ouvre à 13h les festivités. Donc il y aura les C'est pas grave qu'on a entendu tout à l'heure, qui font du swing manouche. C'est un groupe d'Arras, hein, ils sont connus du public arrasois, qui eux joueront à 13h.
Ils joueront juste à côté de la buvette en fait. Ils vont jouer en acoustique.
D'accord.
Des bons gosses.
Ensuite, à 14h, il y aura Château Brutal qu'on vient d'entendre. Vers 15h30, Burning Lady. Et à 17h, même 16h30,
le Pélican frisé.
Et après, il y a un petit temps de battement tant que la compagnie Jolie Mom fasse ses balances et sa mise en scène. Et après, ça rattaque à
19h30.
19h30, ouais.
Ouais. Et globalement, est-ce que vous vous sentez bien dans le salon du 1er mai? Je veux dire, c'est certainement pas par hasard que vous y êtes. C'est pas simplement l'opportunité de pouvoir faire un festival dans ce cadre-là. Le cadre doit, je suppose, qu'il vous convient bien.
Ouais.
Franck,
déjà, l'espace dans lequel on peut faire participer les musiciens et les spectateurs, il est assez joli. Nous, on a pas mal de groupes qui nous ont toujours dit on revient quand vous voulez, les gars, quoi. Enfin, c'est vrai que moi je pense à ceux de Los Tres Puntos qui étaient quand même surpris de jouer dans un jardin tel qu'il est, quoi. Et après, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que les gens, les musiciens ou les spectateurs, ils peuvent naviguer entre le Salon du Livre et chez nous, comme il y a des temps de battement. Après, moi, ça faisait quelques années déjà, là, ça fait 4 ans qu'on le réalise, mais ça faisait peut-être 6-7 ans déjà que j'avais commencé à en parler à Didier, quoi. Les choses, elles se sont mises en place au fur et à mesure. Et c'est vrai que notre place, on l'a bien, parce que c'est on revendique aussi au travers de la musique, quoi.
Ouais. Et justement, vous avez le sentiment que les gens passent de vos concerts, par exemple, au Salon des auteurs, vont rencontrer les écrivains, et puis inversement, et ça circule vraiment.
Plus depuis l'année dernière. On en a pas reparlé depuis, quoi. Moi, je trouve plus depuis l'année dernière. Après, c'est vrai que je pense que pour l'instant, c'est encore plutôt les gens qui sont sur le Salon du Livre qui viennent à nos stands. Et par contre, les mecs qui viennent que pour les concerts, j'ai pas l'impression qu'ils
vont de l'autre
côté, petit peu voir les bouquins et les débats, etc. Quoi.
Ouais.
En même temps, on propose tellement une qualité qu'on n'a pas envie de partir.
Nous, même nos bénévoles, sur la grille des horaires, s'il y a quelqu'un qui veut aller voir un spectacle ou un romancier, quoi. C'est vrai qu'on s'arrange tout le temps comme ça. Quoi,
non, cette année, c'est terminé.
Et justement, est-ce que vous aimeriez qu'il y ait un dispositif qui permette aux gens qui vont à vos concerts d'avoir le contact quand même avec le bouquin un peu plus
Ils ont 100 mètres à faire. Hein.
Ouais, non, c'est
ouais
ça.
Mais justement, s'ils le font pas aussi.
Écoute, je sais pas. T'es obligé de passer par le Salon du Livre pour aller dans le jardin. C'est des journées où on n'a pas trop le temps de voir qui va où, quoi.
Ouais,
mais j'ose espérer qu'il y a quand même des mecs qui viennent pour les concerts et puis qui s'arrêtent quand même sur un stand de livres, quoi.
D'accord. On écoute le groupe suivant ou le morceau suivant ?
Tout à fait.
Ouais, Nat, c'est toi qui... C'est toi qui ouvre ?
Ouais. C'est le groupe qui a servi d'introduction à notre conférence. Et c'est les Burning Lady. Donc les Burning Lady, qui est un groupe qui se situe entre Lille, Dunkerque, Lillers. Mm-hmm. Et c'est un groupe qui était prévu au début, quand on avait encore de l'argent. Et c'est justement un des premiers groupes qui
ont répondu, ouais.
Qui ont répondu présent, sachant que le mec, enfin des guitaristes de Burning Lady, travaille à l'abattoir à Lillers. Et il a complètement compris la situation quand on lui a parlé des problèmes financiers, parce que lui, il sait qu'il risque son emploi, quoi. Donc nous, à la limite, quand on a lu son mail, ça nous a redonné du peps pour se dire de le faire. On fait le festival quand même. Puis on se dit qu'à la limite, nous, c'est... Au pire, on n'a pas les subventions pour organiser un festival. Bah, c'est dommage, mais on s'en sort, quoi. Et ça nous a fait aussi remis en mémoire qu'il y a des mecs qui bossent grâce à ces subventions-là, quoi. Et donc, on est vachement content de les avoir. Parce que là, de la qualité musicale qu'ils ont, ça reste des mecs intègres. I was alone at home, listening to the radio. The news, one man killed would be a band, but say he didn't say his name. Oh,
Le son du porte-voix sur PFM dans l'émission Tumulte. Le son du porte-voix, c'est le dimanche 1er mai à Arras dans le cadre du Salon du Livre
d'Expression. 13h.
À partir de 13h, Thanatos. Donc, Nat, Fred, Thanatos et Franck. Franck, c'est toi qui nous présente le prochain morceau.
Alors, le prochain morceau, c'est un morceau du groupe Le Pélican Frisé et ça s'appelle Bodje Moy.
Le son du porte-voix, Nat, Fred, Thanatos et Franck au micro de PFM. Le programme du son du porte-voix le 1er mai à Arras. C'est pas grave, Château Brutal, Burning Lady, Le Pélican, Frisé et Franck a des choses à rajouter sur ce dernier groupe.
Donc le groupe qu'on vient d'entendre
en fait... Skaakord, je vois sur le flyer.
Skaakord, donc il joue avec un violon, un violoncelle. Puis comme vous l'avez pu l'entendre, il y a quand même pas mal de guitares électriques et tout. Donc eux, ils existent depuis à peu près 92, il me semble. Donc c'est déjà un groupe qui tourne, ils ont 3 albums, il me semble. Donc ils nous viennent de la région parisienne et je les ai rencontrés il y a un an et demi à un concert à Lille. Et en fait, c'est là où on a fait connaissance. Et pour le coup, je leur ai trouvé des dates à faire dans le Nord. Donc ils vont jouer une première fois le jeudi à Bruxelles. Donc ça, c'est pas moi qui s'en occupais. Le vendredi, ils vont jouer au Chakalaka à Hazebrouck. Avec un groupe de copains aussi, c'est les Groovy Jailers. Et le samedi, ils seront chez Tartous et compagnie à Monchy-Breton la veille du 1er mai.
D'accord, on continue la à égrener.
Égrénon. Non, juste aussi pour dire que quand Franck annonçait que donc les mecs viennent de Paris,
donc
pour venir juste pour une date, on s'arrangeait pour trouver des dates les 3 jours avant quoi. Et en fait, c'est aussi la volonté qu'on a, c'est de pouvoir être en lien avec d'autres salles de la région. Et puis par exemple, le vendredi, quand ils jouent avec les Groovy Jailers, c'est un groupe qui était venu, bon c'était pas sous ce nom-là, mais qui était venu il y a deux ans,
ouais, au 1er mai.
Donc on... sans ambition d'être des tourneurs ou je sais pas quoi, on fait rencontrer les groupes et il y a cette idée là aussi
mise en réseau un
voilà
peu.
Ouais
bon, alors, bah après le Pélican Frisé sont très 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 contents de venir jouer dans le Nord parce qu'ils y viennent très peu quoi, et ils sont souvent très bien accueillis, donc ils aiment bien venir dans la région quoi.
Ouais. Les noms des groupes là, c'est quand même c'est quelque chose hein, quand même. Le Pélican Frisé, bon on se demande pourquoi. Burning Lady, Château Brutal, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, ça.
C'est pas grave.
C'est pas grave.
Thanatos, ton interprétation du Pélican Frisé.
Bah, j'en ai une. Hein. Une fois, je me suis fait attaquer par des pélicans.
Ouais. Et Frisé, alors
Bah, c'est une race de pélicans.
Ah, d'accord.
Vraiment
Ouais, c'est vrai. Hein,
c'est vrai
Ouais, ouais.
Et Château Brutal, on va demander à Fred.
Ouais, Château Brutal, en fait, je les ai rencontrés au concert des Battles il y a 15 jours. Bon, ils sont deux sur scène, ça envoie bien. Guitare-batterie, avec un champion de air guitare à la batterie. Et...
Champion de France.
Champion de France, s'il vous plaît, monsieur Jean. Ouais, ouais, non, c'est très sympa, il faut venir au 1er mai.
D'accord. C'est pas trop moyenâgeux.
Ah non, pas du tout, non, 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 c'est des frisés aussi, pas pélicans, mais.
Et Nat.
Par contre, non, pour l'origine du nom, parce que
ouais.
En tant que radio animateur de radio, j'ai vérifié mes sources cet après-midi. Et en fait, le nom Château Brutal, ça vient vraiment d'un jour où il revenait d'un concert de air guitare où il est rentré dans un bistrot vers 8h du matin et il y a un mec qui a commandé un Château Brutal. C'est en gros du gros rouge, quoi.
Ah, d'accord.
Du vin très fort, quoi.
D'accord.
Donc il y a une explication à ce moment-là. Ouais.
Bon, on les écoute.
Ouais.
Alors, il y a un titre du morceau, non ?
Ouais.
2. Song 2. We'll be right back.
Le son du porte-voix, je m'aperçois que dans l'équipe Nat, Fred, Thanatos et Franck, il y a trois musiciens ou ex-musiciens. Il y a trois têtes de mule.
Ouais.
C'est vrai, ça. Et tête de mule, ça m'a fait penser que c'était un groupe qu'on a eu aux 25 ans de PFM.
25 ans,
ouais. Ah ouais. C'était une date marquante
très, très
et
bon
un concert,
souvenir, très, très
concert
bon
marquant. C'était
avec
un marquant, aussi, ouais. Marquant pour ouais, bah, c'est pour ça que je dis Nat aussi. Ouais.
Non mais on existe encore, hein, genre.
Ouais.
C'est pas entendre de nous. En
on n'est pas mort, on n'est pas mort.
Non, non, c'est pour ça que j'ai dit musicien de tête de mule ou ex musicien. C'est le cas de Nat. Nat.
Ouais. Voilà, ouais.
Mais de toute façon, depuis que je suis parti, ils font plus de concerts, donc. Puis c'est naze maintenant.
Ah, on a quand même Jérôme qui est rodisbar avec tête de mule. Hein, le nombre de concerts qu'il a fait avec nous aussi. Ouais.
Très bon rodisbar.
Et en parlant de subventions. Tout ça m'amène à dire que pour les 25 ans de PFM, on avait eu une subvention exceptionnelle de la ville qui avait permis de faire ce concert où il y avait donc Tête de Mule, Konono numéro 1 et j'ai oublié le
je
nom.
Sais plus.
Seigneur Coconut.
Seigneur Coconut.
Seigneur Coconut, voilà. C'est ça. Et bien, pour les 30 ans de PFM, 2011, nous n'avons plus cette subvention exceptionnelle. Ah. Donc il n'y aura pas de concerts, de gros concerts. Ça ne nous empêche pas de faire des choses. Comme vous faites des choses, on fera pas mal d'actions quand même. Mais il n'y aura pas de gros concerts. Voilà.
Bah, bon anniversaire.
Fera... Ouais.
Bon anniversaire.
Alors on va peut-être parler un petit peu de l'avenir du son du porte-voix, puisque déjà l'an passé, quand vous étiez venu à PFM, vous posiez la question de la pérennité de votre équipe. Ou de, bon, c'est toujours pas une association, hein, ça n'a pas changé.
Les papiers sont en cours.
Ah,
on va dire comme ça.
Donc c'est ah ouais, d'accord. Donc vous avez fait un pas de plus là dans la structuration. On va dire ça comme ça.
Bah, avancer un orteil. Hein.
Un orteil.
Il faut qu'on aille à la préfecture. Tout ça. Mais c'est vrai qu'on y pense. Quoi. Ça nous permettrait aussi peut-être d'être autonome vis-à-vis des financements du salon du livre, de Colère du présent. Quoi. Après, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas d'argent, mais on avait déjà pensé trouver des groupes et les faire tourner dans les cafés avec une petite entrée, des choses comme ça. Puis essayer de pérenniser des gens comme ça avant de recréer un événement comme le 1er mai. Quoi.
D'accord, donc faire quand même des événements musicaux en dehors du 1er mai.
Ouais.
Et est-ce que vous rejoignez un peu la préoccupation qui était celle qui a été portée par la populace là, sur la création d'un lieu un peu alternatif, on va dire encore quand...
Moi je pense
Arras,
que.
Nat.
Autant le projet de la populace, je trouve qu'il est vachement bien et de toute façon, il se passe tellement rien que dès qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose, je soutiens à mort, hein, mais l'idée d'avoir un lieu alternatif à Arras, là, ça me devient très compliqué quand déjà les lieux qui existent ne veulent pas produire de concerts. Enfin, il faut déjà essayer de faire avec le peu qu'on a. Y a quand même quelques cafés où c'est possible d'organiser des concerts. Il faut déjà essayer de passer par cette voie-là. Et c'est vrai que nous, l'idée, quand on aura créé l'association, c'est de faire l'événement du 1er mai parce que ça reste une date qui commence à être ancrée dans les têtes, au-delà d'Arras aussi. Hein. Mmh. On s'en est rendu compte là, cette année, comme on a mis du temps à diffuser la programmation finale et tout, on a eu des messages mail ou des coups de fil de mecs qui habitent sur Cambrai ou sur Lille qui nous disent « Bah alors, cette année, il se passe quoi ?» et tout. Et c'est vrai qu'on ne se rendait pas forcément compte de la petite ampleur que ça commençait à prendre. Et c'est vrai que quand on aura créé l'asso, on va essayer d'en profiter pour faire des concerts assez réguliers dans l'année, quoi.
D'accord. En tout cas, pour l'association, le chef est déjà trouvé.
Effectivement.
Bon, tout le monde a deviné que...
on n'en a pas encore discuté. C'est pour ça qu'on ne va pas à la préfecture chercher les papiers.
Allez, musique.
Ouais.
Alors, qui est-ce qui présente là? C'est encore Pélican
frisé,
chevelu.
Ouais, voilà.
Les frisé. Frisé. Alors, vas-y, Franck.
Bah, le morceau, je crois que c'est Wargame. Et quoi dire d'autre? Je sais pas.
Ska Accord encore.
Ska Accord, ouais. Antifasciste aussi.
D'accord.
We'll be right back. that is not good for you. Oh my family, oh I'm sorry, but I must run away.
Burning Lady qui faisait suite au Pélican Frisé, deux groupes qui sont à la dans la programmation du son du porte-voix le 1er mai. On est avec Nat, Fred, Thanatos et Franck de l'équipe du son du porte-voix. On est sur Radio PFM, magazine Tumulte. On va terminer cette émission. Alors on va reprendre un petit peu les rendez-vous. Bah alors, donc, d'abord 1er mai à Arras.
1er mai à Arras à partir de 13h. Hein, avec
où
dans les jardins du... Tu me surprends avec tes questions. Le jardin de la Légion d'honneur, il me semble.
Ouais, je crois que c'est le bon
le
bon
nouveau nom.
Le square de la Légion d'honneur.
Ouais, le square
de la Légion d'honneur.
Donc c'est toujours gratuit en plein air avec une buvette. Alors on sera accompagné à 13h autour du bar avec les C'est pas grave du swing manouche. Ensuite, ça sera les Châteaux Brutales sur la grande scène. Les Burning Lady et enfin le Pélican Frisé qui font aussi des dates jeudi, l'avant-veille le jeudi, donc le 29 au Chacalaca à Hasbrook. Un très bon bar à concert, et le samedi à Tartous et compagnie à Monchy-Breton.
Voilà, ben, on vous souhaite bonne chance pour la mise en place du festival et on se donne rendez-vous le 1er mai. Bon, okay. Il y aura du
ça
monde.
Marche. Bah, certainement, ouais, ça marche bien.
On se dit à dimanche. Ouais.
Merci encore à toi de nous inviter chaque année.
À bientôt. Hein.
Bisous,
Jean.
Salut.
Salut.
Et on se quitte avec le Pélican Frisé.
allen weg. Bin Opfer der Langeweile, Zukunftpläne hab ich keine. Mein Leben ist völlig banal. Bin halt total asozial. Kein Bock auf die Gesellschaft, kein Bock auf eure Freundschaft. Ich will nicht mit euch sein, glücklich bin ich nur allein. Seid nicht sauer, nehmt nicht übel. Ich gehöre nicht zu Vögeln mit tiefem Mitleid. Schaut ihr mich an, ihr fragt euch, wie ich's aushalten kann.
C'est ainsi que se termine ce magazine Tumulte. Tumulte, c'est tous les mardis de 20h à 21h30, rediffusion le mercredi à 16h30 et à 23h, et sur le net radiopfm.com. Et on rajoute un rendez-vous le 1er mai dans le cadre du salon, un débat organisé par Radio PFM, 30 ans de radio libre ouverte sur le monde. C'est à 15h et c'est à la médiathèque. Allez, salut, à la semaine prochaine.